LYFM 93.1, les jeudis littéraires qui se poursuivent en compagnie de Jérôme Peignot. Alors, Jérôme Peignot qu'on reçoit pour en fait deux livres. Alors, le premier, eh bien, c'est Broyer du bleu, nouvelles et notules, qui vient de paraître aux éditions du Rocher. Et le second est un gros bouquin, hein, on va l'appeler comme tel, parce qu'il est édité dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, très très belle collection. Il est co-signé par Marcel Cohen, et c'est Histoire et art de l'écriture. Alors Jérôme Peignot, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Alors premièrement, Peignot, c'est un nom qui dira quelque chose à tous les amoureux de la littérature et de la bonne littérature.
Vous êtes gentil. C'est aussi quelque chose qui dit beaucoup aux gens qui s'intéressent à la typographie. Et avant d'entrer d'ailleurs dans le vif de la discussion, je voudrais faire un petit, un petit appel. Il s'agit du sort de l'imprimerie nationale. Peut-être savez-vous cela.
Oui, je l'ai visité avant sa mort et croyez-moi que c'est quelque chose d'effectivement assez douloureux.
Alors, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet. Je m'en occupe depuis environ une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? L'imprimerie nationale ferme ses portes. L'imprimerie nationale, j'entends, de la rue de la Convention, oui. C'est-à-dire là où se trouve le patrimoine national, des poinçons de l'imprimerie nationale, qui sont des trésors absolument, se trouvent là en particulier les poinçons du Garamond, qui est le premier caractère d'imprimerie oui. dessiné, fondu, créé, gravé par Garamond sous François Ier, et qui est considéré comme le trésor de l'humanité, puis des plombs dans 80 langues différentes, et ensuite, bien sûr, des machines, et tout un savoir-faire, qui tout d'un coup se trouve, jeté à la rue, carrément. Depuis des années, nous nous sommes occupés de sauver ce patrimoine. Et nous avons créé un petit comité d'une vingtaine de personnes. Ce comité a émis sur Internet, dont je vous donne le site Internet, Garamond Patrimoine, Garamond en un seul mot, sans D, Garamond, patrimoine.org. Et puis qu'un petit slash, comme vous dites, hein. Alors, ce groupement, composé d'une vingtaine de personnes, qui sont à la fois des professeurs à l'école Estienne, des gens passionnés dans cette affaire, dont je fais partie. Alors, nous militons pour le sauvetage de cette imprimerie nationale, de ce patrimoine. Alors, le bâtiment de la rue de la Convention est déjà troué, des camions sont en train de vider les lieux. Rien n'a été préparé de sérieux. Pour sauver ce patrimoine, on va accumuler tout ça dans un hangar à Ivry et dans quelques aussi hangars à Douai où l'imprimerie nationale en déficit abyssal va stocker ça probablement s'il s'agissait d'un lieu provisoire, ça irait. Mais s'il s'agit d'un lieu définitif, c'est un enterrement. Or, il n'est pas pensable que ce patrimoine qui est un trésor de l'humanité disparaisse.
Voilà,
alors, nous avons créé un site internet dans ce Garamond Patrimoine et nous avons fait signer une pétition par 20 000 personnes dans le monde entier, des universitaires, des professeurs, dans le monde entier. Toutes les universités américaines que vous pouvez imaginer, Tokyo, Japon, partout, le Canada, ont signé un manifeste pour qu'on conserve ça. Alors nous avons élaboré un projet. Oui. C'est élaboré ce projet, mais encore une fois, personne n'a encore mis la main à la poche.
Alors c'est un projet de sauvegarde
de la sauvegarde qui serait en même temps un centre de formation où on continuerait à produire en plomb, mais aussi en même temps un centre universitaire. Alors c'est l'université de Paris 13, accompagnée de la région, de la municipalité et du conseil général de Bobigny, dans l'ancien immeuble de l'Illustration.
Ah oui.
Où on finirait par donc construire Monsieur Chemetov, l'architecte et chargé de bâtir, de concevoir un lieu de à la fois d'enseignement mais aussi de patrimonial, un musée ouvert au public. Une espèce de, au fond, de campus universitaire ouvert au public et où cette ce savoir-faire, ce savoir tout court, cet élément typographique qui fait partie de finalement de la culture, enfin, ne disparaisse et continue de vivre. Voilà. En gros, où nous en sommes. J'ajoute que le bâtiment de la rue de Convention a été vendu à la société Carlyle et que le prix de son, le bénéfice de sa vente ne suffit pas même à combler le déficit abyssal de l'imprimerie nationale.
Vous savez, moi j'ai tendance à dire ce déficit abyssal et monétaire, bon, j'en ai pas grand chose à faire parce que il est rien par rapport au déficit culturel et en termes de patrimoine que va créer cette absence. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter l'imprimerie nationale justement peu avant qu'elle ne ferme. Ces énormes machines, ces très très belles machines, ces derniers ouvriers typographes d'une grande culture.
Et ces caractères en plomb de 80 langues, en 80 langues différentes.
En phénicien.
Oui,
en...
c'est ça.
On m'a remis justement des tables comme ça, j'aurais su que vous veniez. D'ailleurs, je les aurais amenées. J'avais un certain nombre de documents qui m'avaient été remis à l'occasion. Oui. Et j'avais vu la tristesse de ces gens qui avaient un véritable amour de leur métier.
C'est ça.
Un amour des caractères, un amour de l'imprimerie, qui n'ont pas pu le transmettre. Et là, il y a quelque chose qui s'éteint. Parce qu'il y a aussi des machines dont, parce que le gros problème, alors je sais pas, vous en savez beaucoup plus que moi sur la question, Jean Peignot, mais le gros problème qui me semblait, demeurer à jamais, bien sûr, parce que c'est que il y a des utilisateurs de ces machines, qui, une fois qu'ils auront disparu, il y aura personne qui sera capable de les faire fonctionner.
Oh, il y a tout de même à l'école Estienne, des gens qui savent, Monsieur Papu en particulier, qui a été le conservateur du cabinet des poinçons de l'imprimerie nationale, enseigne à l'école Estienne. On enseigne encore, mais enfin, ils sont deux ou trois ou tout au plus, et qui savent encore ce savoir-faire. Bon, on le transmet aussi aux élèves de l'école Estienne, et on leur apprend à digitaliser les caractères, c'est-à-dire à transférer les caractères conçus pour le plomb dans l'informatique. Oui. Il y a là toute une manipulation que généralement, d'ailleurs, on passe sous silence ou bien qu'on oublie. Alors on fait des garamants bold, de demi-bold, on tire sur un caractère, on en détruit les proportions, alors que Garamond a mis 8 ans à dessiner son caractère. Je vous dis, il était sur 3 lasers enfermés dans un coffre-fort à la Pomme nationale. C'est un trésor de l'humanité.
Absolument.
Alors justement, la sortie de mon livre, venons-en à la sortie.
Correspond.
Si oui. Alors nous voulons
à votre engouement, justement. Oui,
c'est pour ça que je viens batailler. Et avec, je vous remercie de votre invitation parce que je me sers de plaisir que j'ai d'être avec vous pour parler d'abord et avant tout de cette imprimerie nationale. Mais la sortie de mon livre, alors aux éditions Bouquin, dans la collection Bouquin, Art, Histoire et Art de l'écriture, est une occasion de revitaliser ce problème et de pourfendre les gens qui laissent cela à l'abandon ou quasi-abandon.
Mais...
Alors, ce livre est un livre, d'ailleurs, que je précise. Vous avez dit co-signé, Monsieur Marcel Cohen, mort il y a aujourd'hui 30 ans, avait publié aux éditions de l'Imprimerie nationale, justement, un ouvrage qui s'appelle... Naissance de l'écriture, oui c'est ça.
Oui. Je ne connais pas.
C'est peut-être pas vraiment le titre. Naissance de l'écriture, en tout cas, et qui retrace les principaux épisodes de l'histoire de l'écriture. Bien. Bon, j'ai adjoint à ce livre dont j'ai été chargé, j'ai été adjoint à ce livre un colloque qui s'est tenu à Paris, qui s'appelle Synthèse, où tous les grands ténors de l'écriture, Monsieur Gernet par exemple, qui est le plus grand sinologue que la Terre ait porté, Monsieur Martin, Monsieur Février, chacun fait un exposé, qui sur les cunéiformes, qui sur les hiéroglyphes, qui sur les idéogrammes chinois, puis enfin ils discutent, et leurs discussions sont aussi intéressantes que leurs propos. Ensuite, le livre a reproduit l'art de l'écriture de Paillasson, qui dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert a reproduit, a publié un texte absolument admirable, dont on ne sait pas d'ailleurs si c'est un texte littéraire ou un texte d'écrivain, parce qu'on appelait les calligraphes à l'époque des maîtres écrivains, jouant sur l'ambiguïté du mot écrivain. Alors, et puis enfin, trois de mes livres ont été reproduits dans ce collection bouquin. Alors, mon ouvrage sur la typographie, que j'avais publié chez Gallimard il y a maintenant longtemps, j'ose pas dire 25 ans, 30 ans peut-être. L'ouvrage que j'avais fait aussi sur le calligramme, que j'avais publié aux éditions du Chêne, et puis, alors moi plus récemment, là dans les années 70, 80, et enfin un ouvrage sur la calligraphie, où je montre l'existence d'une calligraphie dans notre écriture romaine. On connaît la calligraphie arabe, on connaît la calligraphie chinoise, mais on ignore notre propre calligraphie.
Calligraphie romaine.
C'est une merveille. Ce sont surtout des gens qui travaillaient pour la curie romaine au Vatican, et qui, pour se faire la main, dessinaient des paysages, des visages, et ça s'appelait l'art du trait de plume.